Chapitre 7. À la prison de la santé. Confrontation décisive. Changement de repère de Bonneau. Assassinat de M. Join. Héroïsme de l'inspecteur Colmar. Le lendemain, amené devant M. Gilbert, Raymond de Salence, qui semblait être complètement ressaisi, déclarait dès le début de son interrogatoire « C'est à vous à établir qui je suis et ce que j'ai fait. J'ai lu tous les journaux et je connais le système de défense de Soudy. On l'accuse, paraît-il, d'avoir tiré avec une carabine à Chantilly devant la Société Générale. Je ferai comme lui, je ne dirai rien. » Malgré tous ses efforts, M. Gilbert ne peut rien obtenir de plus du jeune Calmin. Mais le cercle se resserrait de plus en plus sur les derniers bandits qui restaient à arrêter, c'est-à-dire Bonneau, Garnier, Simintoff et Vallet. Cependant, il fallait agir avec une extrême prudence, car, ainsi qu'on avait pu s'en apercevoir au cours des récentes arrestations, les bandits tragiques étaient décidés à se défendre jusqu'au bout, et les lettres de menaces et de bravades que Garnier avait déjà adressées en son nom et de celui de Bonneau, représentant de la justice, incitaient ceux-ci à se tenir prudemment sur leur garde. Profitant donc que l'opinion publique avait un commencement de satisfaction, puisque l'on tenait déjà sous les verrous un nombre respectable de malfaiteurs, la Sûreté Générale et la Sûreté Parisienne se mettaient d'accord pour continuer leurs recherches avec la plus grande activité et déclinaient de s'entourer de toutes les précautions nécessaires pour coffrer ce qui restait à prendre, tout en évitant une effusion de sang et en se gardant d'ajouter de nouveaux noms au martyrologe déjà si long de ces victimes du devoir que sont nos agents tombés au champ d'honneur, c'est-à-dire dans l'exercice de leurs fonctions. Tandis que le flot se resserrait de plus en plus autour de Bonneau, Garnier et compagnie, M. Gilbert inlassablement poursuivait son enquête. Le 11 avril, il confrontait Soudy avec plusieurs témoins. Magistrat consciencieux entre tous, M. Gilbert tenait à s'entourer de toutes les garanties possibles. Au lieu d'opérer dans son cabinet, il se transportait à la prison de la santé et se rendait avec son greffier, M. Doublet, l'avocat de Soudy, dans une petite cour où se trouvait déjà Soudy, flanqué de deux gardiens. Le jeune gredin n'avait perdu ni son calme ni même son sourire. Suivant les ordres du juge d'instruction, il avait revêtu un long pantalon par-dessus gris et était coiffé d'un chapeau melon noir. M. Gilbert avait tenu à apporter également la carabine que l'on avait trouvée à Bécon-les-Bruyères. M. Masson, directeur général de la Société Générale de Chantilly, fut introduit le premier. M. Gilbert lui demanda de lui faire un exposé de ce qu'il avait vu lors de l'attentat dirigé contre les employés. M. Masson déclara qu'il venait de quitter la succursale et qu'il se dirigeait vers la gare lorsqu'il entendit une détonation derrière lui. « Je crus tout d'abord, fit-il, à l'éclatement d'un pneu. Mais d'autres détonations suivirent, je revins alors en toute hâte sur mes pas. Et j'aperçus, arrêté devant la banque, une auto près de laquelle un homme se tenait une carabine à la main. En me voyant, il épaula son arme et fit feu à deux reprises dans ma direction, mais je ne fus pas atteint. « Reconnaîtriez-vous votre agresseur ?»« Oh, je le crois. » Alors, désignant à M. Masson, Soudy, auquel on faisait remettre la carabine, le magistrat dit « Regardez bien cet homme et dites-moi si c'est lui. » Le directeur de la succursale examina longuement, attentivement, le jeune bandit qui n'avait pas bronché. Puis il reprit d'un ton plein de conviction « Oh, c'est bien l'homme que j'ai vu à Chantilly. C'est bien lui qui a tiré sur moi avec une carabine. » Soudy protestait, sans le moindre éclat. « Le témoin est certainement de bonne foi, mais il fait erreur. Je n'en veux pas autrement. Il est victime d'une ressemblance. » M. Gilbert, s'adressant à M. Masson, lui faisait observer. « Votre déclaration peut avoir pour cet homme les conséquences les plus graves. Ne mettez pas un faux point d'honneur à le reconnaître si vous conservez encore quelques doutes au fond de votre cœur. Vous êtes venu ici non pour reconnaître à toute force l'inculpé, mais pour que vous me disiez si, en conscience, vous croyez bien que c'est le bandit qui a fait feu sur vous. Je vous en supplie, réfléchissez bien. Je vous remercie, monsieur le juge, intervenait Soudy. Vous avez fait à ma place le discours que je m'apprêtais à adresser à monsieur Masson. Je l'invite à bien me regarder et à parler selon sa conscience. Et avec toutes les apparences d'une bonne volonté parfaite, il se campa devant le directeur de la succursale, qui, après l'avoir examiné, s'écria « Mais je maintiens ma première déclaration. Je reconnais formellement cet homme. Je jure que je dis la vérité. » « Vous vous trompez cependant, » protestait Soudy. « On vous a fait voir de mes portraits avant que vous ne veniez ici, et vous êtes arrivé bien décidé à me reconnaître. Mais je vous reconnais parce que c'est vous. J'ai conservé le souvenir exact de votre menton carré, que je revois de votre regard, de votre teint blême. Je vous revois épaulant votre arme. » Mais sans paraître le moindrement intimidé par cette accusation formelle, Soudy faisait « Vous ne vous êtes pas avisé que je suis gaucher et que j'épaule l'inverse des autres tireurs. Cela est un fait qui vous aurait frappé si j'étais l'homme à la carabine. » Mais M. Masson, toujours avec énergie, concluait « Mais je maintiens ma première déclaration. » Ce fut ensuite au tour de la femme du directeur. Avec son souci de scrupuleuse exactitude et son désir de donner à cette importante confrontation sa véritable atmosphère, M. Gilbert, se souvenant que Mme Masson, lorsqu'elle assista aux événements tragiques de 28 mars, se trouvait à une fenêtre de son appartement au premier étage au-dessus de la succursale, la pria de se rendre à une fenêtre qui, élevée à 4 mètres, plongeait directement dans la cour. En apercevant Soudy, Madame Masson eut un léger sursaut, puis elle s'écria « Oh, je crois bien que c'est lui !» Monsieur Gilbert, l'ayant ensuite fait descendre dans la cour et approcher du bandit, elle se montra beaucoup plus affirmative. « Ah, pas de doute » s'écria-t-elle. « C'est l'homme de Chantilly. De la fenêtre, j'ai pu hésiter. » Mais quand j'ai vu Soudy le 25 mars, il était en proie à un état d'exaspération extrême. Il courait devant la succursale, tirait dans toutes les directions et criait comme un possédé. « Caletez, caletez, vous autres !» Dès qu'il s'apercevait que quelqu'un faisait mine de s'avancer, et il tirait toujours. « Reconnaîtriez-vous sa voix ?» demandait le juge. « Oh, peut-être !» Soudy ordonnait M. Gilbert. « Criez, caletez !» Sans se faire prier, Soudy obéit. « Oh, c'est bien sa voix !» déclarait Madame Masson. Le juge ordonnait ensuite à Soudy de mimer la scène que venait de décrire le témoin. Et le jeune misérable, la carabine à la main, s'exécuta de la meilleure grâce du monde. Et Madame Masson de nouveau s'affirma. « Mais c'est lui, mais c'est bien lui !» Monsieur Dussard, pharmacien à Chantilly, qui lui succéda, se montra aussi catégorique. « Mais vous vous trompez !» s'écria Soudy, qui commençait à s'énerver. « Et je vous demande de bien rappeler vos souvenirs. Êtes-vous bien sûr que le bandit de Chantilly avec lequel on persiste à m'identifier était de la même taille que moi ? N'existe-t-il pas une différence qui nous sépare ? Réfléchissez bien. La chose est, vous le concevez, fort importante pour moi. C'est pourquoi j'insiste. Mais je maintiens ma déclaration, appuyait M. Dessart. Alors Soudy s'écriait sur un ton de colère. Mais j'étais si peu à Chantilly que le 25 mars, à l'heure du drame, je me trouvais à Paris. Je l'établirai. Oh, vous m'avez déjà parlé de cet alibi, observait M. Gilbert. Vous m'avez dit que vous me le prouveriez. Mais pourquoi tardez-vous? Vous m'avez dit. Je ne veux pas discuter avec vous, je suis innocent, et si vous parvenez à trouver contre moi l'homme Bulchard, je songerai à me défendre. Or, les témoignages que nous venons d'enregistrer constituent non pas une charge, mais bien un faisceau de charges, terrible contre vous. Le moment me semble venu de tenir votre promesse. Non, pas, s'obstinait Soudy. Je suis anarchiste, et j'étais pour quelque chose dans les crimes qui me sont reprouvés. Je revendiquerai hautement ma part de responsabilité, cela en conformité des idées qui me sont chères. Mais tel n'est pas le cas. Allez, faites de moi ce que vous voudrez, je ne dirai plus rien. La confrontation continua avec M. Humbert, garçon de laboratoire de M. Dussard, qui déclara qu'il était trop troublé pour se rendre compte exactement si l'inculpé était bien l'homme à la carabine. Vint enfin M. Le Sage, directeur d'hôtel, qui lui fut extrêmement affirmatif, catégorique. « J'ai bien vu, dit-il, un homme qui tirait des coups de carabine, mais il était trop loin de moi pour que je puisse distinguer ses traits. » Je suis mis à crier au secours. À ce moment, l'auto a démarré et est venu droit sur moi. Une charrette était là, je me suis forcé de la placer au milieu de la rue de Paris pour barrer la route aux bandits. Pendant que j'ai essayé de faire tourner le cheval, l'auto était à ma hauteur. Alors une des portières s'est ouverte et un homme, nu-tête, se pencha entièrement au dehors. Un pied sur le marchepied, il se retenait de la main gauche à l'un des montants du dais. Il avait dans la main droite un Browning. À deux reprises, il fit feu sur moi, sans m'atteindre. Il était tout près de moi. Oh, je conservais la vision très nette du pistolet, à deux canons superposés, braqués dans ma direction. Oui, cet homme était Soudy, ici présent. Je le reconnaîtrais entre mille. « Faites erreur, répliquait l'impliqué. Je ne fais pas erreur, scandait M. le Sage. Je parle sans haine et sans crainte. Je sais quelle suite aura pour vous l'accusation formelle que je porte ici. Je connais le sort qui vous attend, mais je ne puis pas pouvoir parler autrement que je ne l'ai fait. C'était bien vous. » Quelques jours après, M. Gilbert mettait de nouveau Soudy dans la même cour de la prison de la Santé, en présence de quatre autres témoins qui avaient assisté à l'attentat de Chantilly. Madame V, concierge à la succursale, un marchand de vin de la localité, un sous-agent des postes et un monsieur M, employé d'administration à Chantilly. Les trois premiers témoins déclarèrent spontanément qu'ils avaient assisté de trop loin à l'événement tragique pour reconnaître formellement l'accusé. Mais le quatrième, au contraire, fut les plus nets. « Je sortais, disait-il, d'une maison située à l'entrée de la ville lorsque je vis une automobile s'arrêter près du trottoir. Brusquement, le moteur s'était calé. Un homme sautait aussitôt à bas du siège et se dirigeait vers moi d'un air menaçant. Oh, j'eus même l'impression qu'il voulait m'arracher mon portefeuille. Je le regardais bien en face. Et l'homme se mit alors à faire de terribles grimaces, sans doute pour se défigurer. Puis il donna un coup de manivelle, remit le moteur en marche et cria « En arrière, en route pour Chantilly !» Comme sur un signe de M. Gilbert, le gardien s'écartait pour laisser apercevoir Soudy. Spontanément, M. M. s'écria « Ah mais le voilà, mon homme !» Soudy, très nerveux, répliquait « Mais vous vous trompez, j'étais à Paris en ce moment-là. »« C'est impossible, répliqua le témoin, je vous reconnais. »« Recommencez donc un peu les grimaces dont vous m'avez faites. »« Ah, c'est ça, allez, remets encore plus vite votre nez, pincez votre bouche, plus fort. »« Mais c'est cela, c'est cela. »« Ah, voilà bien les grimaces que vous m'avez faites. »« Et maintenant, dites, en arrière, à Chantilly. » Soudy répéta, mais d'une voix faible. « Oh, c'est bien sa voix !» fit le témoin en se tournant vers le juge d'instruction. Soudy, qui commençait à perdre son attitude insolente, ne trouva à dire que ces simples mots. « Un alibi !»« Mais indiquez-le-moi » s'exclamait le magistrat. « C'est impossible !» s'obstinait l'inculpé, contre toute vraisemblance. « Et pourquoi ?» Parce que, au moment même où se passait le drame de Chantilly, je commettais à Paris un délit qui peut me valoir 5 ans de prison. Oh, dans votre situation, vous feriez mieux de l'avouer. Non, déclara le bandit, parce que d'ici peu de temps, vous aurez la véritable homme à la carabine. Et il ajouta d'un air mélancolique, mais sans flancher cependant. Vous avez de la veine de m'avoir amené des témoins qui croient me reconnaître. Sans cela, je vous aurais plus dit un mot. J'aurais gardé un silence lugubre. Les charges s'accumulaient de plus en plus sur les têtes de ceux que la justice tenait à sa disposition. Notamment, grâce aux recherches et aux expériences du service anthropométrique, il était matériellement établi que non seulement Karoui avait participé au double assassinat de Thiers, mais qu'il avait eu encore pour complice son ami Marius Meudge, déjà compris dans les poursuites d'associations de malfaiteurs. Or, malgré toutes les précautions dont nous avons parlé plus haut, prises en vue de protéger les courageux défenseurs de la société contre les menées criminelles de Bonneau et de sa bande, un drame terrible allait marquer d'une teinte de sang l'une des pages les plus émouvantes des annales de la police. Depuis quelques jours déjà, M. Join, chef adjoint de la Sûreté, nous avons déjà vu dans cette retentissante affaire déployer une intelligence, une activité, un zèle et un courage au-dessus de tout éloge, avait été prévenu que Simintov, le bandit fantôme d'Alais, se cachait dans un hôtel des boulevards extérieurs. Il avait su également que Simintov était un faux russe, s'appelant en réalité Montaire, et que c'était lui, ainsi qu'il le pensait déjà, qui avait expédié d'Alais à Dieudonné le mystérieux télégramme « Ce soir, notre mère se porte bien ». Aussitôt en possession de l'adresse de la maison où logeait Simintov, qui d'ailleurs changeait de domicile presque tous les soirs, M. Join décidait de l'arrêter et se rendait, accompagné de 6 inspecteurs, au garni où il savait l'y trouver. Laissant 2 de ses hommes à garder les issues de l'hôtel, M. Join pénétrait dans l'établissement par la porte du restaurant. Il était 6h30 du matin. Présentant au tenancier, M. Vidal, 2 photos de Simintov, M. Join lui demandait s'il reconnaissait ce portrait comme celui d'un de ses hôtes. « Oh, parfaitement !» répliquait M. Vidal, sans la moindre réticence. « Ce monsieur est arrivé hier, la nuit. Je ne lui ai pas encore demandé de libeller son bulletin de police, mais je me disposais à le faire ce matin, car mon client m'avait dit de le réveiller vers 7h. « Conduisez-nous à sa chambre, » invitait M. Join. Le tenancier le faisait monter avec ses 4 inspecteurs au premier étage et remettait la clé de la chambre à l'un d'entre eux, qui aussitôt ouvrit la porte sans difficulté. Se précipitant dans la chambre, les policiers, bondissant sur Simintov, qui était encore au lit et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, ils immobilisaient et paralysaient toute espèce de tentative de défense de sa part. Après l'avoir fait habiller, M. Join l'emmenait dans un taxi-auto qui prenait tout de suite la direction du quai des Orfèvres. Dès que Simintov fut arrivé à la Sûreté, on procéda à la fouille réglementaire et l'on trouva sur lui 2 lettres qu'il avait écrites la veille et qu'il se préparait à mettre à la poste. Elles étaient adressées l'une à un soldeur d'Ivry, nommé Gauzy, et l'autre à un nommé Cardi, également soldeur à Alfortville. Tous 2 anarchistes militants. Immédiatement, M. Join décidait de perquisitionner chez ces 2 individus. Et chargeant son sous-chef M. Legrand de se rendre à Alfortville, il partait pour Ivry en compagnie des inspecteurs principaux Colmar et Robert, du sous-brigadier Rohr et de l'inspecteur Sévestre. Vers 11h moins le quart, ils arrivaient, 63 rue de Paris à Ivry, et s'arrêtaient devant une petite maison dont le rez-de-chaussée était occupé par un magasin de nouveautés à l'enseigne de Hall Populaire d'Ivry. C'était là que demeurait le ménage Golzy, qui passait dans le pays pour recevoir différents personnages aux allures étranges et même inquiétantes. Les 2 époux affichaient ouvertement des opinions anarchistes. Lorsque M. Join et les 2 inspecteurs principaux, Colmar et Robert, pénétrèrent dans la maison, ils trouvèrent Gauzy dans son arrière-boutique, en grande conversation avec le soldat d'Alfortville, le sieur Cardi. Brusquement, M. Join l'interpellait. « Est-il vrai que vous cachez Bonneau chez vous ?»« C'est faux !» affirmait Gauzy. « Bonneau n'est jamais venu ici !» Mais le chef adjoint de la sûreté, lui plaçant la photo de Bonneau sous les yeux, reprenait. « Connaissez-vous cet homme ?»«
Non !»
répliqua le soldeur. Désignant un escalier qui se trouvait dans le couloir, M. Join lui demandait où il conduisait. Gauzy répliquait «
Pas mon logement du premier étage, mais actuellement il est vide car ma femme est partie depuis quelques jours à Nîmes avec nos enfants. Nous allons perquisitionner. »
Accompagné de l'inspecteur Colmar qui s'était emparé de la clé que lui tendait le soldeur, il gravit les marches, suivi par l'inspecteur principal Robert, qui pénétrait aussitôt dans une chambre dont les volets étaient fermés et les rideaux des fenêtres tirés. L'obscurité était presque complète. M. Join pénétrait aussitôt dans une autre chambre où on y voyait un peu plus clair. Tout à coup, il tressaillit. Dans un coin, près de la fenêtre, se détachait la silhouette d'un homme, petit, trapu, ramassé sur lui-même, comme un fauve à l'affût, et qui se tenait derrière une table qu'il avait poussée devant lui.
« Mais c'est Bonneau !» s'écria M. Join. « Bonneau !»
répéta Colmar. M. Join, n'écoutant que son courage, s'élançait vers le bandit qui lui envoyait dans les jambes la table derrière laquelle il s'abritait. M. Join tombait à terre et Colmar se précipitait vers le bandit qui se débattait furieusement. Abandonnant Gizy qu'il avait perdu, gardé en surveillance, le brigadier Robert se précipitait à son tour, cherchant lui aussi à immobiliser Bonneau, qui doué d'une force herculéenne allait échapper à l'étreinte des deux policiers.
« Prenez-lui le bras, il est armé !» lançait M. Join.
On y voyait à peine. Et comme M. Robert tâtonnait, quatre détonations retentirent. Bonneau, qui s'était dégagé, venait de faire feu à bout portant sur ses deux adversaires.
« Oh, je suis touché !» s'écriait Colmar en chancelant. « Je crois que j'ai mon compte !»
Par terre, côte à côte, M. Join, étendu sur le dos et Bonneau tombé à plat ventre, gisait inanimé.
« Morts tous deux !»
se dit l'inspecteur Robert. Et le malheureux Colmar s'écriait en portant la main à sa poitrine sanglante.
« Oh, mon pauvre Robert, oh, j'en ai pris plein la caisse. Soutiens-moi !»
M. Robert, persuadé qu'il n'y avait plus là que deux cadavres, prit son collègue à bras le corps et l'aida à descendre dans l'escalier. Mais à peine M. Robert avait-il disparu avec le blessé, que Bonneau, se redressant sur ses jambes, se dirigeait à pas de loup vers la porte et, son Browning au poing, pénétrait dans une autre chambre où il se trouvait face à face avec une vieille femme qui le regardait d'un air effaré. La menaçant de son arme, il lui criait «
Laisse-moi passer ou je te brûle !»
Puis, se dirigeant vers la fenêtre qui était ouverte, il fit en regardant le sol «
c'est bien haut !»
Et se retournant vers la malheureuse qui, épouvantée, était restée sur place, il lui dit
« Allez, donne-moi un drap de lit, vive, fais vite !»
Comme hébétée, elle restait sans lui répondre. Le bandit tragique enjamba l'appui de la fenêtre et se cramponna au barreau des persiennes. Il parvint à gagner le toit d'une maison voisine. Et de là, il bondit dans un jardin et, toujours son revolver au poing, grimpa après un mur de clôture, sauta dans une ruelle déserte, escalada de nouveau une petite muraille qui donnait sur des jardins déserts et s'en fut se cacher dans un buisson épais où il souffla un instant. Puis, ayant repris haleine, enjambant les haies, frisant les frêles palissades, il atteignit une sente qui le conduisit près des fortifications à 100 mètres de la porte d'Ivry. Et de là, il gagna la voie ferrée du chemin de fer d'Orléans, sans d'ailleurs avoir été l'objet d'aucune poursuite. En effet, stupéfié, bouleversé par le drame qui venait de se dérouler avec une rapidité si foudroyante, les inspecteurs Sevestre et Rohr, qui étaient restés en bas, n'avaient pas entendu le bruit des détonations et de la lutte. Ce fut seulement lorsqu'ils virent arriver leurs collègues Robert et Colmar qu'ils comprirent qu'un malheur était arrivé. Tout en continuant à assister son collègue qui perdait abondamment son sang, l'inspecteur Robert criait à ses camarades « Monsieur Jouet est là-haut, mort probablement. Bonneau est mort également, il s'est suicidé, il ne bouge plus. » Messieurs Sevestre et Rohr n'en écoutaient pas davantage, laissant Monsieur Robert prodiguer à son infortuné camarade les premiers soins. Ils montaient 4 à 4 les escaliers, trouvait dans la chambre le sous-chef de la sûreté étendu mort dans une barre de sang. Quant à Bonneau, il avait déjà disparu. La voisine, encore tout éperdue, les mettait au courant de sa brève et tragique entrevue avec le bandit et leur montrait la fenêtre ouverte, la persienne qu'il avait à moitié démolie en fuyant, le toit du hangar par lequel il s'était échappé. Il était trop tard maintenant pour songer à le poursuivre. Tandis que l'on transportait Colmar à l'hospice d'Ivry et que la gendarmerie et les agents, alertés, après avoir procédé à l'arrestation de Gauzy et de Cordy, fouillaient tous les alentours, M. Lépine, préfet de police, prévenu téléphoniquement, se transportait sur les lieux, accompagné de M. Xavier Guichard. Tous deux pénétraient dans la chambre où on avait laissé encore étendu le cadavre de l'héroïque policier. Vivement ému, il saluait cette victime du devoir. Le procureur de la République Lescouvet, M. Gilbert, juge d'instruction, ne tardait pas à les rejoindre. Puis tous se rendaient à l'hospice d'Ivry auprès de Colmar, que l'on avait installé dans la petite suite d'infirmerie. La première parole de l'inspecteur était de demander à son camarade Robert « On me dit que Jouy est tué, c'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Sachant que M. Colmar, avec le chef de la sûreté, était lié d'une étroite amitié, M. Robert lui répondait « Oh, il est grièvement touché, mais il n'est pas mort. » Ce pieux mensonge parut apporter un grand soulagement au blessé qui avait gardé toute sa connaissance. Et il pouvait répondre à M. Gilbert, qui lui demandait s'il avait reconnu Bonneau. « Oh, il faisait si noir dans cette chambre, monsieur le juge, que je ne pourrais pas le dire. Le bandit était petit, trapu, c'est tout ce que je sais. Cody nous avait dit qu'il n'y avait personne dans sa chambre. Et quand nous sommes montés, Jouin et moi, nous avons vu le misérable. J'ai aperçu son geste, il cherchait son revolver dans sa poche. » Mais, malgré son vif désir de renseigner ses supérieurs, Colmar faiblissait vivement et se trouvait dans l'impossibilité de continuer sa déposition. D'ailleurs, le chirurgien Desmarais, qui était accouru, réclamait le blessé et, après avoir fort habilement extrait une balle blindée de 6 mm qui avait pénétré dans la cage thoracique sans atteindre d'organes essentiels, il avait la satisfaction de pouvoir déclarer à ceux qui attendaient impatiemment son verdict, que les jours de Colmar n'étaient pas en danger. Le même soir, vers 6h30, M. Poincaré, président du Conseil, après avoir été salué le corps de M. Jouin, qui reposait à l'amphithéâtre de l'hospice d'Ivry, gagnait avec M. le préfet Lépine la salle Broca, où se trouvait l'héroïque inspecteur Colmar, un chevet auquel était accouru enfin sa femme, et M. Lépine disait à ce brave « Voici M. le président du Conseil, qui a tenu à venir en personne, vous féliciter. » Puis se tournant vers M. Poincaré, M. Lépine lui disait « Vous n'en êtes pas à son premier noble mot de courage. Il a déjà reçu plusieurs blessures et il est titulaire de la médaille d'or. Oh, cette fois, il a eu une chance inouïe. » Et M. Poincaré répliquait « C'est la chance du courage. Je sais qu'il a déjà eu la médaille d'or.
C'est pourquoi nous avons pensé de lui donner une récompense plus haute, inspecteur Colmar. Je vous annonce que vous êtes proposé pour la croix de la Légion d'honneur. » Deux larmes mouillèrent les paupières du brave auxiliaire de la loi, qui ne devait pas d'ailleurs tarder à reprendre son service. Pendant ce temps, une femme désespérée veillait auprès du corps de son mari. C'était Madame Jouin, qui, en proie à un chagrin immense, ne cessait de répéter à travers ses sanglots: « J'avais bien prévu qu'il me le tuerait. » Monsieur Jouin, d'ailleurs, ne s'illusionnait guère sur le sort tragique qui lui était réservé. 4 jours auparavant, sentant que la bataille suprême approchait, il avait fait son testament. Chapitre 8. Les époux Gauzy. La poignée de poivre. Un précieux renseignement. Le garage de Choisy-le-Roi. La voiture de Paille. La mort de Bonneau. À Nogent-sur-Marne, le vainqueur du pavillon. Fin tragique de Garnier Valet. Infatigable, le grand juge d'instruction qu'était M. Gilbert, après avoir inculpé Gauzy d'association et de recel de malfaiteurs, ainsi que de complicité avec Bonneau en raison de l'assassinat de M. Jouin et de la blessure reçue par l'inspecteur principal Colmar, procédait sans tarder à son interrogatoire. Gauzy commençait naturellement par déclarer qu'il était innocent et désireux de se disculper nettement, même en l'absence de son avocat. Il était prêt à répondre à toutes les questions qu'on lui poserait. Profitant de ses bonnes dispositions, M. Gilbert lui disait simplement: « Parlez, je vous écoute. Dites-moi tout ce que vous savez au sujet de l'affaire pour laquelle vous êtes ici. » Très nettement, Gauzy, qui semblait avoir préparé d'avance ses déclarations, commençait ainsi: « Il y a 3 ans, à Nîmes, je faisais la connaissance de l'individu qui m'avait été présenté sous le nom d'Étienne Élie, que je croyais être le sien. Je devais le retrouver il y a 1 mois et demi. En effet, à cette date, il se présentait chez moi et me demandait un emploi. J'avais besoin d'un commis, je m'engageais aussitôt. Le 18 avril dernier, il me signifia qu'il me quittait. Il me donna aucune explication touchant cette brusque détermination. Je lui en demandais du reste pas. Nous nous quittâmes, très bons amis, et pendant congé de moi, le pseudo Élie, qui n'était autre que Monnier, que vous appeliez Simentov, m'avisa qu'il avait trouvé un camarade pour le remplacer chez moi. Et je ne le revis plus depuis cette date. Mardi soir, rentrant de Paris à la nuit, j'aperçus sur le trottoir devant ma boutique un homme qui faisait les 100 pas. Dès qu'il me vit, il se dirigea vers moi et me demanda brusquement: « C'est vous, Gauzy ?»« Oui, » répondis-je. « Je suis russe et libertaire, » poursuivit l'inconnu. « En outre, je suis envoyé vers vous par Élie. Il m'a dit que vous pourriez me procurer une chambre meublée. » Je répondis qu'il était tard, que je ne pouvais pas m'occuper de lui trouver un logement avant le lendemain, mais que, puisqu'il me venait de la part d'Élie, je lui accorderais l'hospitalité pour la nuit. Ainsi dit, fut fait. Mais, somme toute, il avait une tête qui ne me revenait pas. Dès le lendemain matin, je lui déclarai, sous prétexte que je n'avais pas de femme de ménage, qu'il m'était impossible de le garder plus longtemps chez moi. « Je vous comprends fort bien, me dit-il, je vais vous débarrasser. » Je redescendis à ma boutique. Vers 10 heures, comme je remontais à mes logements, je me rencontrai nez à nez avec mon homme qui descendait l'escalier. Il me remercia, puis il ajouta: « Vous voyez, je m'en vais. » Après avoir vaqué à plusieurs occupations, je m'en fus prendre l'apéritif chez un marchand de vin du voisinage. Je répète et maintiens formellement que je croyais cet homme parti de chez moi, comme M. Jouin est arrivé avec ses inspecteurs. « Allons, allons, » reprenait M. Gilbert d'un ton sceptique, « on ne reçoit pas chez soi l'inconnu dans ces conditions. Votre récit ne tient pas debout. » « Dans mon milieu, » se défendait le soldeur, « les choses se passent ainsi. Nous ne sommes pas curieux et nous pensons que si on ne nous fait pas de confidence, c'est qu'on a des raisons pour cela. Ces raisons, il ne nous appartient pas de les apprécier. Vous connaissiez parfaitement Bonneau. Mais non, je ne le connaissais pas. Arrivons au drame, poursuivait le juge. Volontiers, faisait l'inculpé. Alors je suis monté avec Monsieur Join, l'inspecteur Colmar. Je suis entré dans la première pièce derrière eux. L'inspecteur Robert était auprès de moi. À ce moment, j'ai entendu M. Chouin crier « Il y a quelqu'un ici !» Alors, je l'ai vu s'élancer avec M. Colmar vers un homme que, malgré la demi-obscurité qui régnait dans la chambre, j'ai reconnu aussitôt et à ma grande stupéfaction pour mon hôte que je croyais parti depuis 1 heure. Perdant la tête, je me suis sauvé pendant que M. Robert se précipitait à la rescousse. Je me suis trouvé dans la rue, j'ai couru, mais bientôt on m'a arrêté. Mais avouez donc que vous connaissiez Bonneau. Non, j'ai su que c'était lui qu'après mon arrestation, lorsqu'on m'a montré sa photographie, mais je ne l'avais jamais vu. Cette assertion allait être démentie par Madame Gauzy, qui, de retour de Nîmes, avait été immédiatement convoquée par Monsieur Xavier Guichard, auquel elle déclara. Oui, j'ai bien connu Sibintoff, Élie, qui fut employé chez nous pendant 6 semaines. Je ne crois pas qu'il ait fait des confidences à mon mari touchant les motifs réels de son départ. Monsieur Guichard, lui présentant une photographie anthropométrique, lui demandait « Connaissez-vous cet homme? » Oui, nous l'avons vu à Ivry. C'est Bonneau, déclarait le chef de la sûreté. Ah, je ne le connaissais pas sous ce nom, affirmait la femme du soldeur. Moi, j'ignorais même tout à fait comment il s'appelait, et mon mari devait être sur ce point tout aussi peu renseigné que moi. Ainsi donc Gauzy, en affirmant qu'il n'avait jamais vu Bonneau, avait commis un mensonge. En attendant l'arrestation de ses comparses, ne semblait nullement avoir intimidé les bandits demeurés en liberté. Non seulement toutes les pistes indiquées pour retrouver Bonneau et les autres bandits encore en liberté n'avait donné de résultat. Mais encore, on eût dit que les bandits fantômes étaient décidés à narguer jusqu'au bout la police. En effet, un nouvel attentat allait se produire le vendredi 26 avril, portant la signature de Bonneau et compagnie. Un chauffeur de taxi, M. Pierre Chapuis, passait vide vers 7 heures du soir à l'angle de l'avenue des Gobelins et de la place d'Italie, lorsque deux individus lui firent signe de s'arrêter. Savez-vous où se trouve le champ d'aviation de Juvisy? Lui demandait l'un d'eux. Nous devons sans faute aller ce soir pour la livraison d'un moteur d'aéroplane. Voulez-vous nous y conduire? Le chauffeur acceptait avec empressement et le trajet s'effectua sans incident. Un peu avant d'arriver au champ d'aviation, sur la route nationale, à l'angle d'un petit chemin conduisant au lieu désigné, les deux voyageurs faisaient stopper M. Chapuis. L'un descendait, après avoir échangé avec son compagnon quelques paroles que le chauffeur n'entendit pas, et il parut se diriger vers l'aérodrome. Au bout d'un quart d'heure environ, il revenait et disait à son ami: Oh, c'est extrêmement ennuyeux, l'appareil n'est pas au point, il sera terminé que demain. Oh, je viens de voir Léo, qui m'a annoncé qu'on nous attendait pour dîner au restaurant de la pyramide, dans la forêt de Sénart. Faut y aller tout de suite. Et s'adressant au chauffeur, il lui demanda: Pouvez-vous nous conduire? Ah, c'est que je ne connais pas très bien la route. Eh bien, nous vous l'indiquerons. Le chauffeur remit son moteur en marche. Bientôt, il s'engageait dans la forêt. La nuit commençait à tomber et la route était déserte. Monsieur Chapuis filait un bon train lorsqu'il entendit un des voyageurs qui, tout en frappant à l'une des glaces d'avant, lui criait « Arrêtez! Mon chapeau a été emporté par le vent! » Le chauffeur freina, s'arrêta. Son client descendit aussitôt de la voiture. L'autre en fit autant et, comme le premier s'en allait à la recherche de son chapeau, l'autre, se plaçant près du mécanicien, lui dit, tout en enfonçant les mains dans ses poches, « C'est imprudent d'être parti ainsi de Paris sans emporter nos pardessus. Oh, les soirées sont fraîches, je suis gelé. » À peine avait-il prononcé ces mots que, sortant une main de son vêtement, il lançait une pleine poignée de poivre dans les yeux de M. Chapuis. Celui-ci, aveuglé, sautait sur la route et, persuadé qu'on voulait l'assassiner, se jetait dans la forêt, gagnait une allée transversale et se cachait dans un fourré. Mais, sans plus s'inquiéter de lui, les deux voyageurs s'emparaient de la voiture et, après avoir fait demi-tour, repartaient dans la direction de Juvisy. Le mécanicien, qui souffrait atrocement après avoir erré dans la forêt, parvenait enfin au café de l'Ermitage sur la route de Paris à Melun, à 2 kilomètres de Brunoy. Et après y avoir passé la nuit, il rentrait dès la première heure à Paris. Comme il faisait à M. Guichard le récit de l'attaque dont il avait été l'objet, M. Leproust, commissaire de police du quartier de l'Europe, téléphonait au chef de la sûreté qu'un taxi auto rouge portant le numéro 1919 avait été abandonné dans le courant de la nuit devant le numéro 14 de la rue de Moscou. M. Chapuis se rendit à l'adresse indiquée, reconnaissait en effet sa voiture dont les lanternes étaient encore allumées. Le soupirail actionnant le compteur avait été arraché à l'aide d'une pince ou d'un levier. Quant au réservoir à essence, il était presque aux 3/4 plein. Selon toute probabilité, ce taxi avait été volé dans le but de transporter Bonneau en lieu sûr. Mais où? À Paris, sans aucun doute. En effet, la veille au soir, vers 21h, un employé d'octroi de service à la porte de Bercy voyait s'arrêter environ à 250 mètres de lui, à l'extérieur de la barrière, un taxi drapeau blanc. Le chauffeur sautait à terre, s'en allait soulever le capot de sa voiture, se penchait vers le moteur, puis, après un rapide examen, il reprenait son volant et gagnait à petite allure le bureau de l'octroi. Mais au lieu de s'arrêter et faire viser sa feuille d'essence, il donnait un coup à l'accélérateur et l'auto, brûlant la politesse aux fonctionnaires, filait à toute allure sur le quai de Bercy. Mais l'employé d'octroi avait eu le temps de se rendre compte que la voiture contenait deux voyageurs dont l'un avait une figure peu rassurante. Subitement, comme s'il était frappé d'un trait de lumière, il s'écria « Oh, mais c'est Bonneau qui rentre à Paris !» Réquisitionnant une voiture de livraison qui arrivait et montait en prenant du chauffeur, le brave homme voulut s'élancer à la poursuite du taxi rouge. Mais celui-ci avait une avance trop considérable et il fallut abandonner bientôt la poursuite. Cet employé se rendait immédiatement à la sûreté parisienne et la description qu'il faisait à M. Guichard du taxi permet au chef de la sûreté de conclure que c'était bien celui qui avait été volé à M. Chapuis. D'autre part, le marinier Claude Bonneau se trouvait sur un bateau amarré quai de Billy devant la manutention militaire et, apercevant un objet qui flottait sur l'eau, l'attira avec une gaffe. C'était un portefeuille qui renfermait des papiers au nom de Chapuis, notamment son permis de conduire, un engagement de loueur, etc., etc. Le portefeuille et son contenu étaient transmis au service de la sûreté qui pouvait établir ainsi que les voleurs de la voiture qui avaient trouvé dans la pochette située à droite du siège le portefeuille où son propriétaire avait l'habitude de le placer avaient pu, grâce aux papiers qu'il contenait, pénétrer sans risque dans Paris. Mais les jugeant inutiles et même compromettants, ils avaient dû jeter le tout dans la Seine. Le même soir, un indicateur, ou plutôt une indicatrice, apportait à la police un renseignement précieux. Selon elle, Bonneau se trouvait caché chez un anarchiste nommé Dubois, propriétaire d'un garage situé rue Jules Vallès, à Choisy-le-Roi. Ce Dubois était d'ailleurs depuis longtemps sous la surveillance de la police, car on le soupçonnait d'avoir des accointances avec les bandits tragiques. Et bien qu'une perquisition faite chez lui ne donna aucun résultat, l'inspecteur Fleury n'en avait pas moins continué à le filer et à le faire tenir en observation par des gens à lui. Aussitôt, M. Xavier Guichard décidait de se rendre chez Dubois, accompagné de son chef, M. Legrand, du brigadier Fleury, déjà nommé, du secrétaire M. Guillaume et de 15 inspecteurs. Il arrivait le 28 avril à 7 h du matin devant la maison de Dubois. Isolé au milieu d'un terrain vague, bordé par les murs des jardins voisins, elle se composait au rez-de-chaussée d'une salle destinée à garer les voitures, avec une fosse pour les réparations. Le premier et seul étage était occupé par le logement du locataire. Tandis que M. Guichard et M. Legrand s'apprêtaient à monter dans l'immeuble par un escalier extérieur et qu'une dizaine d'inspecteurs restaient en station devant la maison, le brigadier Fleury, flanqué de l'inspecteur Arion, pénétrait dans le garage tout en proférant d'une voix forte « Inspecteur de la police, nous venons pour perquisitionner !» Dubois, qui se trouvait debout au milieu du garage, près d'une limousine, s'emparait aussitôt d'un pistolet automatique caché dans l'auto et par deux fois faisait feu sur les agents qui, par une chance inouïe, n'étaient pas atteints. Surpris par cette attaque inattendue, les inspecteurs reculaient tandis que Dubois, s'élançant vers l'entrée, hurlait furieusement « Assassin ! Assassin !» Et de nouveau, il déchargea son arme sur l'inspecteur Arion, qui cette fois fut touché au bras. Alors le brigadier Fleury, saisissant son revolver, tirait par deux fois sur Dubois qui s'écroulait sur le ciment de son garage. Les deux balles avaient porté l'une dans la clavicule droite, l'autre en pleine poitrine. Au même moment, M. Guichard, qu'accompagnaient M. Legrand et l'inspecteur M. Eugène, gravissait l'escalier intérieur, lorsque tout à coup, sur la plateforme à laquelle aboutissaient les marches, un homme surgit. C'était Bonneau. Visant M. Guichard avec son Browning, il appuyait sur la détente. Les deux balles, sifflant aux oreilles du chef de la sûreté, atteignaient derrière lui l'inspecteur Eugène, qui, ployant sur les genoux, s'écria « Au patron, j'en ai !» Aussitôt, les agents, qui étaient restés en bas de la maison, ripostaient en dirigeant leur feu sur Bonneau, qui rentrait dans la maison et s'y barricadait. M. Xavier Guichard, ne sachant pas exactement combien de bandits se trouvaient à l'intérieur de la maison, et craignant pour la vie de ses hommes, décidait un recul stratégique qui s'imposait. Tandis que deux inspecteurs transportaient dans une automobile de la préfecture le blessé à l'hôpital de Choisy et réclamaient le secours de la gendarmerie, M. Guichard, ses lieutenants et ses hommes continuaient à monter une garde vigilante autour de la maison du garagiste, attendant les renforts qui ne tardaient pas à arriver. Bientôt, aux gendarmes et aux agents des localités des alentours se joignaient 50 gardes municipaux. Tous tapis derrière les haies, profitant des replis de terrain, se défilant derrière les pans de murs, ils se déployaient en tirailleurs, les yeux rivés sur les fenêtres du garage du bois. M. Lépine, préfet de police, était transporté sur les lieux avec M. Lezevé, procureur de la République, et M. Gilbert, juge d'instruction. Un détachement d'infanterie coloniale venait se joindre aux assiégeants. « Bon, s'il le faut, s'écria M. Lépine, je ferai venir de l'artillerie, car je veux en finir. » M. Paul Guichard, alors commissaire des Halles et frère du chef de la sûreté, ainsi que l'inspecteur Robert, proposait d'envahir la maison et de s'emparer des bandits. Même M. Lépine s'y refusait, car il ne voulait pas mettre en danger l'existence d'aucun de ses subordonnés. Et il déclarait « Le garage du bois sera dynamité !» Pendant tous les préparatifs, la fusillade n'avait pas cessé de crépiter, car chaque fois qu'un tirailleur embusqué croyait voir quelque chose s'agiter dans la maison, il faisait feu, et tout le monde en faisait autant si bien qu'il ne restait plus un seul carreau dans la maison. Vers 10 heures, on apportait la cartouche de dynamite qui devait anéantir la maison. La difficulté était de la déposer au bon endroit. Un homme se présenta, un officier de la garde républicaine, le lieutenant Paul Fontan, qui déjà à plusieurs reprises s'était offert avec le frère de M. Guichard à prendre d'assaut le repaire des bandits. « Laissez-moi faire, monsieur le préfet, dit-il. Qu'on mette seulement à ma disposition une voiture de paille qui me servira d'abri, et je me charge d'aller poser moi-même au pied du garage la cartouche de dynamite qui mettra fin à ce siège qui permettra de capturer ces gredins. » Matin du 29 avril 1912. Après un bref conciliabule entre les représentants du parquet de la préfecture de police et le capitaine Rondet de la garde républicaine, supérieur hiérarchique du lieutenant Fontan, la proposition de ce dernier était acceptée. On réquisitionnait la charrette de paille réclamée par le vaillant officier et on garnissait le bas du véhicule du matelas que les gens du voisinage s'étaient empressés de mettre à la disposition des défenseurs de l'ordre public. Un carrier de la localité s'était chargé de fournir les cartouches et les cordons Mickford nécessaires. Quand tous ces préparatifs furent préparés, M. Lépine, d'une voix émue, lançait « Lieutenant, à vous !» À peine avait-il prononcé ces mots que M. Rebu, commissaire de police de Choisy-le-Roi, ceint de son écharpe aux trois couleurs, s'écriait en s'élançant à la tête du cheval « Monsieur le préfet, c'est sur localité dont je suis le commissaire que se déroule ce drame. Je vous demande de me laisser conduire moi-même jusqu'au repère des bandits, l'abri roulant qui va permettre peut-être de s'emparer d'eux. En agissant ainsi, je ne fais que mon devoir, laissez-moi l'accomplir. » Mais les deux propriétaires de la charrette, messieurs Puch et Mathieu, réclamaient avec la simplicité de véritables héros. « Oh, monsieur le commissaire, puisque l'on nous a demandé notre concours en cette terrible circonstance, laissez-nous au moins solliciter à notre tour l'honneur d'être à la peine jusqu'au bout. Nous vous demandons très respectueusement de conduire nous-mêmes notre voiture. » « Bien sûr, nous n'avons point qualité, nous autres, pour aller nous faire trouver la peau. Mais laissez-lui aller quand même. Nous avons prêté notre voiture, fourni la paille, et ce sera notre récompense. » Et au milieu de l'émotion générale, M. Lépine s'écriait « Laissez, monsieur le commissaire, laissez faire ces messieurs. » M. Puch, l'un des propriétaires du véhicule, enchanté, saisit son cheval par la bride, et tenant de l'autre main un revolver qu'un pompier de Choisy-le-Roi lui avait remis, il fit démarrer la voiture à reculons. Derrière elle marchaient le lieutenant Fontan, M. Rebu et M. Mathieu, tous armés de revolvers. La foule de curieux qui s'était sans cesse accrue et que parvenait à refouler à grand-peine le service d'ordre considérable assistait de loin, frémissante, à cette périlleuse et dramatique opération de police. Dans un tragique silence, lentement, la voiture poursuivit sa marche arrière vers le repaire des bandits qui semblait désert. Bientôt, l'arrière de la voiture touchait le mur de la maison. Le lieutenant Fontan se glissait sous le véhicule et après avoir rampé jusqu'au pied du mur, il creusait un petit trou dans le sol et y plaquait la cartouche de dynamite qu'il recouvrit de terre. Puis, toujours sur les genoux, il rebroussait chemin, rejoignait le conducteur de la voiture qui tenait toujours son cheval par la bride et qui, sur un signe de l'officier, repartait en avant. Le lieutenant Fontan, à mesure que la voiture au bouclier s'éloignait du garage, déroulait le cordon Bickford dont une extrémité avait été fixée à la cartouche. Lorsque la voiture de paille s'en vint se ranger à l'angle de l'avenue de la République et de la rue des Frères Reclus, des acclamations s'élevèrent de l'assistance, enthousiasmée par l'héroïsme de ces braves gens et heureuse de constater que les bandits n'avaient pas fait de nouvelles victimes. Maintenant, il ne s'agissait plus que d'allumer le cordon. Le lieutenant Fontan craqua une allumette, mais ce fut en vain qu'on attendit la détonation. La mèche avait fait long feu. Nullement découragé, l'officier de la garde déclarait « Oh, c'est pas après un essai infructueux que l'on doit se déclarer vaincu. Il faut recommencer, monsieur le préfet, il le faut !» Monsieur Rebut et les propriétaires de la charrette déclaraient qu'ils étaient prêts, eux aussi, à renouveler l'expérience. Mais monsieur Robert, le vaillant inspecteur principal de la sûreté, s'écriait « Monsieur le préfet, je vous ai proposé tout à l'heure de pénétrer avec 3 hommes de ma bande dans le repaire des bandits. Mon intention et celle de mes hommes sont toujours les mêmes. Je vous en prie, laissez-nous faire. Je vous promets de ramener ici les bandits vivants. Ce sera ma revanche après la tragique expédition où M. Jouin trouva la mort, où Colmar fut blessé, où moi seul échappais. » Très ému par la manifestation d'un courage et d'un dévouement sans limite, M. Lépine ripostait. « Non, je refuse. La vie de tel bandit ne vaut le sacrifice de celle de serviteurs tels que vous et vos hommes. On va essayer une deuxième fois de dynamiter la maison. » De nouveau, la voiture de paille, conduite par M. Buch et toujours accompagnée par le lieutenant Fontan, M. Mathieu et M. Rebut, se dirigeaient à reculons vers le garage. Cette fois, l'expérience réussit. À 11h40, une violente détonation retentissait. Un épais nuage de poussière s'élevait autour de la maison, et lorsqu'il se dissipa, on aperçut, à l'angle du pavillon, un trou d'1 mètre carré formant une brèche dans la place. Soudain, à l'intérieur du garage, 4 détonations retentissaient. De tous côtés, on criait « Ils sont morts, ils viennent de se suicider !» Et le flot des assistants voulut se précipiter en avant. « Halte, halte !» criait M. Xavier Guichard. « N'avancez pas, c'est une ruse des bandits. Ils attendent là-bas, derrière les fenêtres, prêts à tirer sur ceux qui approcheront. » Au même moment, des soldats, qui avaient cru voir une ombre passer devant une fenêtre du premier étage, tirait dans cette direction une salve de mousqueterie. Les balles avaient-elles frappé juste? Personne n'aurait pu l'affirmer. À son tour, M. Paul Guichard, frère du chef de la sûreté parisienne, s'écriait « Oh, monsieur le préfet, donnez-moi seulement 10 hommes décidés, chacun abrité derrière un matelas. Je vous assure que nous nous chargeons de vous emparer des bandits. » Tout en rendant hommage à ses héroïques collaborateurs, M. Lépine décidait que l'on tenterait une 3e fois de faire sauter le garage. Mais cette fois, le carrier, qui avait fourni les 2 premiers explosifs, préparait lui-même une triple cartouche qu'il remit au lieutenant Fontan et pour la 3e fois, la voiture de paille se dirigea vers le pavillon. Cette fois, l'expérience réussit. Après une détonation sourde et prolongée, le mur de droite du garage s'effondrait dans un nuage de poussière parmi lequel on apercevait quelques flammes. « Ils sont tués, ils sont tués !» criait la foule. « Que personne ne bouge, empêchez d'avancer !» ordonnait le préfet. Tandis que les gardes, les agents maintenaient le public, M. Guichard s'approchait du préfet et lui disait « Monsieur le préfet, je ne sais si les bandits sont morts. Mais s'ils sont tués par l'explosion ou s'ils se sont suicidés et que nous laissions l'incendie consumer la baraque, nous ne trouverons sous les décombres que des cadavres. Et comment pourrons-nous alors les identifier? L'opinion publique, apeurée, dira que Bonneau n'était pas dans la maison. Quelle certitude aurons-nous pour répondre? Vous avez raison, approuvait M. Lépine. Il est nécessaire d'être fixé. Nous allons explorer le repère et c'est moi qui dirigerait l'expédition. Quelques instants après, le préfet de police, M. Gilbert, le juge d'instruction, M. Tourny, directeur de la police municipale, M. Xavier Guichard, chef de la sûreté, son frère, le lieutenant Fontan, le commissaire de police Rebut, le sous-brigadier Telvas, le gardien Gamard, l'inspecteur principal Robert et quatre de ses collègues de la sûreté, abrités derrière la voiture de paille, se dirigeaient vers le garage. Lorsqu'ils furent arrivés devant la porte, M. Xavier Guichard ordonnait à ses hommes « Tirez sur tous les individus que vous allez trouver là-dedans. Si vous voyez un corps par terre, n'hésitez pas, tirez dessus. » Ensuite, le chef préfet, le chef de la sûreté et M. Touny pénétraient à l'intérieur du pavillon. Le garage était vide. Toutes ses vitres avaient été brisées. L'incendie commençait à gagner le premier étage. Près de la limousine, on découvrait étendu à terre le cadavre de Dubois. Aussitôt, le préfet de police donnait l'ordre d'enlever le corps et la visite se poursuivait. Au milieu des crépitements, des flammes et des petites détonations que produisaient en exposant sous l'action du feu les balles de revolver lancées par les bandits, on découvrait dans un coin la motocyclette de Bonneau, puis répandue sur le sol, ses feuilles de papier. Mais M. Guichard, d'un ton décidé, s'écriait « Montons !» Suivi de son frère, du lieutenant Fontan, du commissaire de police de Choisy et de quelques inspecteurs, M. Xavier Guichard sort du garage, contourne la maison, gravit l'escalier qui donne accès aux chambres. Au dehors, on applaudit le chef de la sûreté qui pousse la porte et pénètre à l'intérieur, revolver au poing. Rien dans la première pièce. M. Guichard se précipite dans la seconde et Bonneau est là, allongé sur un matelas. Bien qu'il paraisse grièvement blessé, il écarte un autre matelas derrière lequel il s'abritait et les mains crispées sur deux revolvers, il presse la gâchette d'une de ses armes. La balle vient frapper M. Guichard à l'épaule droite et traverse sa jaquette sans le blesser. Froidement, celui-ci riposte. Oh, il n'est pas le seul. 10 coups de feu partent en même temps sur le bandit qui sert de cible. Bonneau s'affaisse en criant « Todv !» Ce sont ses dernières paroles. « Allons !» commanda M. Guichard. « Emportez-le à l'hôpital !» On s'empare de lui, on se prépare à le descendre, mais la foule qui a réussi à rompre les barrages entoure la maison et crie « À mort ! À mort !» Et dominant le tumulte, M. Guichard s'écrie « Écartez-vous, c'est fini !» Mais la foule devient de plus en plus menaçante. Elle veut lyncher Bonneau, dont elle aperçoit le corps porté par les inspecteurs. La police parvient à dégager le garage. Bonneau est jeté dans une automobile qui part à toute allure à Paris pour l'Hôtel Dieu. Le misérable est encore vivant, mais il meurt en arrivant à l'hôpital. S'il a évité le bourreau, il n'a pas échappé à la justice. Maintenant, il ne s'agissait plus que de capturer les deux derniers bandits tragiques, c'est-à-dire Garnier et Valet. Dans la journée du mardi 14 mai, un renseignement d'une source indiscutable apprenait au chef de la sûreté que les deux misérables se cachaient dans un pavillon de la rue du Viaduc à Nogent-sur-Marne. Dès qu'il fut mis en possession des renseignements voulus, nous raconte notre confrère Dumas Verzet, M. Xavier Guichard avisa le juge d'instruction M. Gilbert. Une conférence eut lieu qui décida de faire, s'il le valait, un siège en règle de la Villa Bonnour. Une expédition immédiate fut décidée et à 6 heures du soir, M. Guichard, l'inspecteur principal Robert, le brigadier Fleury et 25 agents, emportant 6 boucliers en acier chromé, partaient pour Nogent. Tandis que d'autres inspecteurs ainsi qu'un important contingent d'agents de brigade de réserve en tenue de civil prenaient le train à la gare de l'Est, il était 17h15, quand des automobiles de la préfecture stoppèrent près du pont de Mulhouse, à 400 mètres de la Villa Bonneau. C'était un petit pavillon, uniquement composé d'un rez-de-chaussée, qui s'élevait au milieu d'un jardinet fermé, du côté de la Marne, par un treillis en fil de fer garni de plantes grimpantes, et du côté de l'allée qui donnait accès par une barrière en bois. Après s'être rendu compte de la topographie des lieux, M. Guichard faisait cerner la villa. Puis, accompagné du sous-brigadier Fleury et de deux autres inspecteurs, qui, ainsi que lui, s'abritaient avec un bouclier, il s'engagea dans le petit sentier qui conduisait au pavillon, apercevant dans le jardin deux hommes aux cheveux blonds, habillés en kaki et qui parlaient tranquillement. Il murmura « Ce sont eux !» Mais les deux hommes et la femme qui avaient entendu le policier s'élançaient dans le pavillon. En quelques enjambées, M. Guichard et ses collaborateurs arrivaient devant la porte, et le chef de la sûreté, agitant son écharpe tricolore, s'écriait « Police, service de la sûreté !» Mais aussitôt, une femme se précipitait près de M. Guichard. C'était la femme Schouffs, la maîtresse de Garnier, qui, la figure contractée, s'écriait « Je me rends, emmenez-moi !» Et comme le chef de la sûreté la prenait par le bras, elle ajouta « Prenez garde, monsieur Guichard !» À peine avait-elle prononcé ces derniers mots que des coups de feu partaient du premier étage. C'était Garnier et Valet, qui, abrités derrière l'appui de la fenêtre, tiraient sur les policiers. Une balle effleurait le visage du chef de la sûreté, une autre trouait le bouclier de l'inspecteur Kérouse. Une troisième atteignait dans le dos le sous-brigadier Fleury, et le quatrième blessait l'inspecteur Delépine à l'épaule gauche et atteignait par ricochet l'inspecteur Pancheron. M. Guichard, devant une résistance qui s'annonçait aussi meurtrière pour ses hommes, décida de ne pas exposer plus longtemps leur existence et de faire le siège en règle de la maisonnette. Après avoir fait emmener la maîtresse de Garnier et demandé du renfort à Paris, M. Guichard disposait les forces placées sous ses ordres de telle sorte qu'il était impossible aux bandits réfugiés dans la villa d'en sortir sans être immédiatement repérés. Garnier et Valet n'en continuèrent pas moins à tirer. Ainsi que l'avait annoncé la femme Schouff aux inspecteurs, ils avaient des armes, plus de 1500 cartouches. La bataille s'annonçait longue et opiniâtre. Pendant ce temps, la foule s'était amassée, rendant le service d'ordre extrêmement difficile et compliquant encore la tâche des policiers, mais, fort heureusement, des gardes républicains, des agents, des gendarmes arrivaient de Paris et parvenaient rapidement à isoler le champ de bataille. Messieurs Lépine, Lescouvet, Gilbert, Amar, Toudy arrivaient sur les lieux. Le préfet de police s'installait dans une villa habitée et voisine de celle du repaire des bandits, et dont elle n'était séparée que par une petite cour, et d'où l'on apercevait Garnier et Valet, qui, agenouillés près d'une fenêtre, tiraient sans discontinuer. La nuit commençait à venir. Le siège durait déjà depuis 2 heures et demie. M. Lépine décidait alors de faire lancer une grenade sur le pavillon. Les hommes du 3e d'artillerie étaient mandés à cet effet. La sonnerie « Cessez le feu » résonnait sinistrement. Les clairons faisaient entendre la retraite. Les inspecteurs de la sûreté et les soldats s'éloignèrent de la maison, et bientôt, au milieu d'un silence impressionnant, éclatait une grenade lancée du haut du viaduc voisin sur le toit de la villa qui volait en éclats. Puis de nouveau, ce fut un grand silence qui permettait de conclure que les bandits avaient péri. Les inspecteurs s'avancèrent vers la maison qui était éclairée par les reflets de phares à acétylène installés dans la villa voisine. Et tout à coup, du repère, qui avait été fortement ébranlé par l'explosion et dont les murs et le plancher du premier étage étaient toujours intacts, on entendait distinctement s'élever ces cris « Vache, salaud, assassin !» Les bandits étaient toujours vivants. Croyant apercevoir deux ombres sur le toit de la villa, les zouaves qui se trouvaient sur le viaduc dirigèrent sur la maison un feu nourri de mousqueterie. Les balles ricochaient dans le jardin où se trouvaient messieurs Lépine, Lescouvet, Gilbert, Guichard, etc., qui se trouvèrent un moment en grand danger. Fort heureusement, un clairon des pompiers se rendit compte de la situation, put sonner le cessez-le-feu avant qu'un malheur ne se fût produit. Un véritable conseil de guerre se tenait alors entre les représentants de la justice et les officiers supérieurs présents. Et il fut décidé que l'on ferait sauter la villa à la dynamite. On éteint les projecteurs, les torches. Dans la voiture du laboratoire municipal, à la lueur des lanternes, des officiers confectionnaient un formidable engin. Ils avaient apporté du fort de Nogent une douzaine de pétards à la dynamite qu'ils accouplaient avec précaution et que bientôt ils accrochaient en paquet à l'extrémité de leur perche tout au long de laquelle serpentait un cordon Bickford. Emportant le dangereux engin, les lieutenants de Noir et de Laval du 33e Dragon de Vincennes s'en allaient placer leurs bombes contre la villa sinistre. Aidé par un officier de Zouave, le lieutenant Le Tournier la plaçait sur des lattes de bois superposées et la laissait glisser lentement vers la porte. Ils accomplissaient ainsi, dans l'obscurité et le silence, leur sinistre besogne. À peine se sont-ils mis hors de portée, lit-on dans Le Matin, qu'une explosion formidable retentit. Sans doute la maison vient-elle de sauter? Non! Car à la lumière des projecteurs, on s'aperçoit que ce redoutable engin, qui devait soi-disant tout pulvériser, n'a fait qu'un simple trou de 3 ou 4 mètres carrés au pied du pavillon. On décide de renouveler la tentative. La seconde n'a pas plus de succès que la première. Du pavillon éclatent plusieurs coups de feu et à force énervent les agents qui s'élancent. M. Guichard en tête, et l'assaut va commencer. Des chiens policiers sont lancés à l'intérieur de la maison où les bandits continuent à tirailler avec rage. Soudain, d'une des fenêtres, une lueur apparaît. Ce sont les rideaux de la chambre qui flambent, et on aperçoit à l'intérieur Garnier, qui roulait dans un matelas et un bras passé en travers, continue, revolver au poing, de mitrailler les assaillants. L'agent Nick de Joinville-le-Pont s'élance dans la pièce avec un sergent des Zouaves. Ils s'emparent du matelas tous les deux, le déroulent, mais Garnier est mort, la poitrine trouée de balles. Il est nu jusqu'à la ceinture. Son pantalon est effiloché. Il a les pieds nus dans des sandales blanches. Pendant ce temps, les autres agents, inspecteurs, zouaves et gardes, continuent à visiter toutes les pièces de la maison. Dans l'une de celles-ci, ils trouvent Vallée, qui lui n'est pas mort, et continue à tirer des coups de revolver sur ceux qui veulent entrer dans la pièce. On s'approche pourtant, et tout à coup, une balle atteint Vallée au cou. Il tombe, et à ce moment, les agents s'emparent de lui. Puis on sort le cadavre de Garnier, en même temps que Vallée, qui porte une blessure excessivement grave, et une dizaine d'agents l'entraînent dans la rue. À ce moment, le bruit de ce qui vient de se passer se répand comme une traînée de poudre. La foule rompt les barrages et les forces de police sont impuissantes à protéger Vallée. Des inspecteurs sont obligés de s'interposer. Des cris de mort retentissent, on entend de toutes parts. À mort, Vallée, à mort! C'est ainsi qu'il est traîné pendant une cinquantaine de mètres jusqu'à une voiture de la préfecture qui l'emporte vers Paris. Le cadavre de Garnier est déposé dans une autre voiture qui part également vers Paris où il est déposé à la morgue. À 3 heures du matin, la foule, maintenue encore par certains barrages, continue à stationner sur la route du viaduc. Vallée a été transporté dans un hôpital de Paris où il ne tarde pas à expirer. Paris et la France pouvaient maintenant pousser un soupir de soulagement. La police avait eu le dernier mot. Il ne s'agissait plus que de régler le sort des bandits survivants. Et M. Gilbert, l'éminent juge d'instruction, n'allait pas faillir à la tâche.